Nous allons donc commencer cette session intitulée « La bataille des matières premières ». Alors, j'avais demandé à Alain Faujas du Monde d'être le modérateur, mais il se trouve qu'il a été appelé à Séoul, au G20, où il y a un sujet « matières premières » qui est à l'ordre du jour, donc en particulier la question de la volatilité des prix des matières premières. Donc je le remplace et je profite de ma position pour faire une toute petite introduction et ensuite je passe la parole à mes collègues. Nous avons la chance d'avoir un haut fonctionnaire, un universitaire et un homme d'entreprise. Donc je crois qu'on a un panel qui est très bien équilibré. Si le micro va rester à peu près à ça. Voilà. Donc, la bataille pour le contrôle des ressources en matière première devient ces derniers temps de plus en plus aiguë. C'est un enjeu stratégique, notamment le pétrole, comme on l'a vu à travers la guerre du Irak, où les épisodes opposant la Russie à l'Ukraine, on s'aperçoit que les questions énergétiques sont vraiment des questions très sensibles de nos jours. Alors, un petit mot pour fixer quelques idées sur le commerce international. C'est ma spécialité, c'est sur cette question-là que je voulais parler. Disons que le commerce international, c'est ce qui permet aux pays excédentaires d'approvisionner les pays déficitaires en ressources naturelles. Donc c'est une bonne chose, tout le monde y gagne. Ceux qui exportent, ça leur fait des ressources. Et ceux qui importent, c'est vital pour leur développement industriel et économique en général. Et donc, en principe, tout le monde y gagne. Alors, le problème, c'est que, après, une fois que l'échange est fait, il faut savoir ce qu'on en fait. Alors, à l'heure actuelle, les échanges, ça fait 24%. Le quart des échanges mondiaux sont des échanges de ressources naturelles. Alors, j'entends par ici... ressources, matières premières, j'exclus l'agriculture pour cette session. C'est un choix que nous avons fait. Alors, ça représente, c'est 25% du commerce mondial, hors échange intra-européen. Il y en a 77% qui sont de l'énergie et 18% qui sont des minerais. Il y a une très forte concentration de l'offre et de la demande. L'offre, les 15 premiers exportateurs, représentent plus de la moitié des échanges, et c'est encore pire du côté des consommateurs, puisque les 15 premiers consommateurs, ça représente 70% des importations mondiales. Les droits de douane sont très faibles, 1,5% en moyenne, ce qui veut dire que c'est un secteur dans lequel l'importation des biens est quasiment libre dans la plupart des pays du monde. À l'inverse, il y a plutôt des restrictions à l'exportation. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec la volonté de certains pays de préserver leurs ressources et de ralentir l'exploitation de leurs ressources naturelles. Donc c'est un des problèmes du libre-échange sur les ressources naturelles, c'est est-ce que la liberté de l'échange n'incite pas un certain nombre de pays à accélérer l'épuisement de leurs ressources naturelles, et est-ce que ça n'a pas des conséquences en matière de détérioration de leur environnement? Ensuite, il y a tous les problèmes de l'usage de la rente, et on sait en particulier que parmi ces problèmes de la rente, il y a ce qu'on appelle la maladie hollandaise ou la malédiction des matières premières, qui font qu'un certain nombre de pays exportateurs de matières premières se trouvent souffrir d'une absence de développement. Et enfin, dernier problème posé par les matières premières, c'est l'extrême volatilité des prix des matières premières qui fait que pour un certain nombre de pays en développement, ça devient très difficile, ça a toujours été très difficile de faire des prévisions économiques puisque leurs revenus venant souvent d'une ou deux matières premières, leurs ressources sont extrêmement instables également. Voilà, le panorama maintenant est est en train de a changé depuis au moins une dizaine d'années, si ce n'est plus, avec l'émergence de très grands pays en développement sur la scène internationale. Évidemment, je pense à la Chine et à l'Inde. Alors, quelques chiffres pour vous donner l'ampleur du problème. La demande chinoise de matières premières a cru de 30% par an en valeur courante entre 2000 et 2008. Alors, il y a un effet volume et il y a un effet prix qui sont derrière ça. Pour atteindre 330 milliards de dollars, dont 50% d'énergie, ça représente 10% de la demande internationale de matières premières. Et la Chine est suivie par l'Inde, dont la demande d'importation s'accroît de 25% par an sur la même période, ce qui représente 4% de la demande internationale. Et dernier point sur les pays émergents qui posent problème sans doute pour l'avenir, enfin c'est un problème qu'il faut prendre en compte, c'est que leur développement suppose une consommation extrêmement intensive d'énergie et de matières premières d'une manière générale, puisqu'ils passent d'un système traditionnel qui était relativement économe en énergie à l'économie moderne où la consommation d'énergie devient beaucoup plus intense. Donc avant même qu'ils ne fassent des progrès en matière de productivité énergétique, il risque d'y avoir une demande accrue du fait de l'émergence de ces grands pays en développement. Voilà, je passe tout de suite la parole à Gilles Bellet qui va nous faire un panorama historique, je dirais, de ce secteur.
Oui, je vais vous parler un petit peu d'histoire. Donc, moi, je suis. Enfin, d'histoire, pas seulement d'histoire. J'ai pris un peu le fil directeur historique pour resituer les choses. Mais, donc, d'abord, je me présente. Je suis haut fonctionnaire à Bercy, au ministère de l'économie. Et aussi pour vous dire que je parle ici librement et je m'occupe de sujets beaucoup plus modestes dans la vie quotidienne que les sujets dont je vais vous parler. Et donc, je suis en quelque sorte. J'ai une parole libre et qui ne représente pas une parole des pouvoirs publics français. Que vous dire j'ai pris le titre de l'exposé, la bataille des matières premières, et donc bataille, qui dit bataille, ça fait un peu penser aux histoires militaires, et je vais commencer par vous dire quelques mots sur le pétrole, sur les autres matières premières ensuite, et sur les idées, je dirais, plus récentes par la suite. Donc, dès le départ, le pétrole a été, complètement internationalisé. En 1900, le pétrole, il était aux États-Unis et à Bakou, et puis, à Bakou, dans le Caucase. Et, dès la guerre de 14, ça a été un problème important, la diplomatie s'y est mêlée. Et en France, il y a une parole fondatrice de l'approvisionnement en matières premières, qui est celle en décembre 1917, et je cite Georges Clémenceau. Si les Alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France combattante possède, dans le moment du choc suprême allemand, l'essence qui lui est si nécessaire comme le sang dans les futures batailles. Lord Curzon, ministère des Affaires étrangères britannique, aura dit que la victoire des Alliés s'est faite sur un océan de pétrole. Donc, ce n'est pas une histoire récente, et c'est des histoires dans la guerre de bataille. Il y a, dans le fait fondateur et générateur de la sécurité, il y a des affaires militaires, et il y a la sécurité prise dans son sens le positif. Donc, élément fondateur très fort a structuré pendant très longtemps la politique française pétrolière, à partir de la loi 1928, dès la guerre 14, les accords Sykes-Picot, c'est le partage du Moyen-Orient entre la France et l'Angleterre sur ce qui fera les domaines pétroliers, le traité de San Remo en 1920, nous donne les actifs de l'Irak Petroleum Company comme héritage de guerre, qui était détenu par la Deutsche Bank. Je pars sur l'histoire, je passe à la loi de 1928, qui structure et qui va structurer pendant 50 ans le paysage français, mais parce que c'est, pas pour vous faire un cours sur l'histoire du pétrole, il y aurait trop à en dire, mais pour vous montrer que dès le départ, il y a eu de la diplomatie, de la volonté de créer des entreprises, la CFP créée la suite de l'accord de San Remo, et ensuite la diplomatie qui s'est occupée de l'ancien empire français, du Sahara, dans la guerre d'Algérie, il y a des enjeux pétroliers, et donc de la diplomatie, des opérateurs, ensuite du raffinage, la compagnie française de raffinage, et des stocks pétroliers, et donc une donc, si je parle de tout ça, c'est que tout ça forme un tout cohérent et, je dirais, doit être replacé, et on le retrouvera dans les autres matières premières. Donc, depuis 1973, l'OPEP, l'AIE, etc., créé pour, comme contrepartie de l'AIPEP, de l'OPEP, je passe. Qu'est-ce qui reste dans le corpus maintenant international? Il reste les 3 mois de stock. La France avait donné le ton, ensuite l'AIE a donné le ton, l'Union européenne, donc c'est une espèce de consensus. Il y a un consensus, maintenant on est dans un consensus, il y a de la diplomatie et du militaire dans les affaires du monde, je vous laisse apprécier, vous êtes servi autant que moi là-dessus. Et, mais il y a, c'est essentiellement le marché, le stock, 3 mois de stock, on vit dans une économie à flux tendu, fondamentalement, avec sous le marché, un marché physique qui est très très efficace, avec énormément d'acteurs, qui marche très très bien, il y a 10 fois plus de mains d'opérations à terme par des vrais acteurs pétroliers, et puis là-dessus, le marché est tellement efficace, tellement liquide, c'est tellement merveilleux, que se lancent là-dessus des opérateurs, des fonds de pension, de la finance, et donc sur la couche physique, il y a 10 fois plus d'opérations internes, et puis ensuite 10 fois plus de finances par derrière, et c'est un des sujets, je dirais, à la mode. La CFTC, l'organe des marchés américains, a fait de très longues études, toutes les autorités ont fait des longues études, et puis tout ça est remouliné au G20 aujourd'hui pour savoir si on peut réglementer la volatilité des cours, dont on a vu un exemple l'an dernier avec le pétrole qui est monté à 140 dollars, tombé à 35. Il y a de la finance là-dessous et de la spéculation financière. On est dans un contexte maintenant où le monde du pétrole est complètement sous le marché, avec énormément de dispersion des acteurs. Les autres matières premières, elles ont une histoire plus courte, parce qu'il ne faut pas remonter à la Première Guerre mondiale, mais à la Seconde. Donc je parle, et c'est quand même intéressant de se voir après la Seconde Guerre mondiale dans quel état d'esprit on était. La charte de la Havane, pour mémoire, considérait que les matières naturelles étaient patrimoine mondial de l'humanité. C'est pas tellement le sens là-dessus. Enfin, je veux dire, il faut se remettre dans une autre époque. Enfin, si on prend le Conseil national de la résistance aussi, les idées qui étaient à l'époque, ou l'accord de Philadelphie dans le domaine du travail, enfin tous ces trucs, après la Première Guerre mondiale, on était dans un autre monde. Hein. Et donc ensuite, à partir de ça, il y a eu des accords de produits pour essayer de stabiliser les cours de matières premières. On en a fait, il y en a un qui a marché très bien, qui était l'étain, qui a marché pendant 30 ans, avec des espèces d'organiser le thym, le prix, on régulait la demande, des quotas, etc., des stocks. Alors les Russes vendaient, les Américains revendaient leurs stocks, redonnaient les stocks stratégiques pour donner la liquidité au marché. Tout ça a terminé dans une faillite généralisée du stock de l'étain et malgré les grandes idées de la CNUSED en 72 pour faire un fonds commun de produits de base, tout ça a été liquidé. Alors, aux USA, ils ont une vision un peu plus stratégique. Il y a eu des tas de lois sur les matériaux stratégiques, je passe. Les stocks, mais si on regarde les stocks américains, les stocks américains, c'est assez intéressant de voir qu'il y en a eu pour 10 milliards de dollars en 90, et maintenant il n'y en a plus qu'un milliard de dollars, c'est-à-dire que les années 90-95, là, on a fait confiance au marché et on a balancé tous les stocks stratégiques. Maintenant, il y a de nouvelles réflexions qui reviennent un petit peu à la mode. Donc, une phase de marché. Donc, il y a encore des stocks stratégiques. Les stocks stratégiques, donc tout l'Occident, en quelque sorte, a balancé ces stocks stratégiques. Ceux qui continuent à en faire, vous voyez où ils sont au Japon, en Corée, en Chine. Enfin, c'est eux qui ont encore des stocks stratégiques gouvernementaux. L'idée des stocks stratégiques dans nos pays n'est plus du tout la mode. En France, on a eu aussi une politique de coopérative d'acheteurs qui a très très bien fonctionné, les accords des Yaoundé, etc., des stocks. On a eu la Caisse française de matières premières qui n'a jamais eu les moyens budgétaires de travailler et ensuite a été fini par être liquidée un peu piteusement après des spéculations sur certains métaux dans les années 1992. Tout ça pour dire que les stocks, ça coûte cher, c'est difficile à faire. Et quand on fait une politique de stock, il faut savoir dès le départ ce qu'on va en faire, comment on va la mobiliser, au profit de qui, comment, dans quelles conditions. Tout ça est complètement et très difficile. Alors on avait des acteurs miniers ou des acteurs publics ou semi-publics dans la mine, et le BRGM a perdu beaucoup de ses compétences et n'est plus aussi influent qu'il n'a été ces dernières années. Et en revanche, les acteurs, n'a jamais eu le succès. Le succès que l'on a eu, Penaroya, Pechine, etc., ont disparu. Il y a encore des noyaux durs, il y a encore Eramet, il y a quelques acteurs miniers français, mais ils sont vraiment, on a quasiment abandonné cette filière, sauf dans des domaines très stratégiques qui sont l'uranium, où il y a un acheteur, EDF, Areva, etc., et Areva a sa politique de stockage, une politique, de stockage et de long terme sur l'uranium. Mais dans les autres domaines, on fait confiance au marché. Les États maintenant, et c'est l'État américain aussi, les États occidentaux, ils se replient sur les besoins strictement militaires. Alors, après cette triomphe du marché, maintenant, est-ce que tout ça va continuer à fonctionner, ou du moins, quelles sont un peu les idées plus récentes avec les chocs de la demande, la mondialisation qui arrive là-dedans, etc. Quels sont un petit peu les impacts? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne parlerai pas du pétrole parce que c'est un sujet trop connu. Et en revanche, je ciblerai plutôt sur les autres matières minérales. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a un choc de la demande. Alors, le choc de la demande, il est quand même, on vient de le citer tout à l'heure, enfin, il est très intéressant sur la demande mondiale. Vous voyez, la Chine, en 5 ans, elle est passée sur les grandes matières de 20 à 45% du marché mondial, de la demande chinoise. Donc, c'est vraiment, il y a un choc de la demande très très fort. Regardez sur les minerais de fer, 27 à 45% du minerai de fer mondial, le cuivre, etc. Dans toutes ces matières, la Chine est déjà à 40%. Alors la Chine s'équipe, elle construit du béton, etc. Puis c'est l'usine du monde. Hein. Tant qu'elle en consomme, elle en réexporte un certain nombre. Mais pour l'instant, elle en consomme beaucoup. Regardez pour mémoire ce que j'ai mis sur le pétrole à côté. Le pétrole, c'est une énergie de riche, c'est une énergie de consommateur. C'est vous et moi, etc. C'est les riches qui consomment du pétrole. Peut-être que les Chinois, qui maintenant construisent plus de voitures que les Américains. Alors, pour mémoire, je vous dis, les Chinois, ils ne consomment pas de pétrole. Pour l'instant, ils consomment 10% du pétrole mondial. Les Américains consomment 25%. Je vous rappelle, c'est dans tous les journaux, que les Chinois construisent en ce moment plus de voitures que les Américains. Donc, on sent bien qu'ils en ont sous le pied au niveau de consommation du pétrole. Et il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Donc, le choc de la demande, il est là dans les matières premières, beaucoup plus que dans les matières premières. Que dans l'énergie, en tout cas en ce qui concerne la responsabilité de la Chine. Deuxièmement, il y a une consolidation très forte du secteur, et alors que le pétrole, Exxon, ils ont beau avoir fusionné avec Mobil, ils représentent 6% du marché mondial, c'est rien du tout. Les majors pétroliers n'existent plus, ils n'existent plus face aux National Oil Company. On est dans un monde où personne ne fait plus de 4 ou 5% du marché mondial. Alors que dans la mine, on a eu une restructuration très très forte ces dernières années des grands opérateurs. Et si on prend, on a connu pendant 30 ans l'ère des 7 sœurs, les 7 sœurs pétrolières. Il y a eu des tas de bouquins là-dessus, et vous l'avez bien connu. Enfin, c'est l'époque, 1928, les accords d'Agnacari, où ils sont mis tous ensemble en accord pour faire un cartel qui a tenu pendant 50 ans jusqu'au 73. On a connu donc 50 ans de l'époque des 7 sœurs. Alors, est-ce qu'on va avoir un jour les 4 frères ou les 3 frères? Je lisais un discours en venant dans le train du ministre allemand de la... Parce que les Allemands, ils se préoccupent sérieusement de la question des matières premières. Du ministre allemand Bauderle, la semaine dernière, au moment où il crée une agence de matières premières, où il parlait, du cartel du minerai de fer. J'ai jamais entendu parler en France du cartel du minerai de fer. Enfin, les Allemands, ils en parlent au Parlement allemand. Et deuxièmement, du temps qu'on avait gagné, Dieu merci, parce que l'échec, à cause de l'échec de la fusion entre Rio Tinto et BHP. Alors vous voyez, Rio Tinto, BHP, Xatra et Vale, et Vail, alors bon, Rio Tinto, BHP, c'est les grands internationaux, et puis avec de l'Australie, niveau BHP, etc., enfin du monde anglo-saxon, Xatra, c'est plutôt les traders, les grands traders de pétrole d'abord, et puis de matières premières qui ont construit cette entreprise. Vail, c'est des Brésiliens. Donc ces quatre entreprises, elles font 25% de la concentration des marchés mondiaux des matériaux, mais dans certains domaines, elles en font 80, 85, 90%, et elles font 65% dans le minerai de fer, donc ce qui inquiète le ministre des Allemands. La deuxième chose, c'est dans le choc de la demande, et je ne l'ai pas trop mis là-dedans, le choc de la demande, c'est la technologie, en ce sens que là aussi l'Union européenne a fait un rapport récemment qui s'appelle Ad hoc Working Group, etc., sur les matières critiques. Et elle nous dit que la technologie, le progrès, la mondialisation, tout s'échange. Et puis on ne sait plus très bien d'où viennent les pièces, où elles sont consommées. Et puis la technologie, c'est tout ce qu'il y a dans nos appareils. Et d'après de bons auteurs, des matières aussi bizarres que le gallium, l'indium, le germanium, et les platinoïdes et les platines, on imagine une consommation qui va être multipliée par 10. D'ici 2030 pour satisfaire tous les besoins que nous voyons tous les jours dans les batteries, le photovoltaïque, les fibres optiques, les catalyseurs, le médical, et j'en passe. Donc, en général, toute la technologie, tout le développement, en particulier le développement économique, repose sur un certain nombre de matières. Donc, il y a un choc de la demande aussi qui est technologie. Alors, face à ce choc de la demande, on prend conscience de la vulnérabilité de l'Union européenne dans un contexte que je rappelais, là, de mondialisation et de technologie. Vous voyez, j'ai mis quelques matières dont l'Europe est, je veux dire, on parle souvent de la dépendance énergétique de l'Europe, mais l'Europe, elle est dépendante à 83% de minerais de fer, 80% en zinc, plomb, phosphate, etc. Elle est aussi dépendante dans ces matières que dans l'énergie. Et puis, il y a un certain nombre de choses dont nous sommes dépendants, nous les Européens, à 100%. À 100%. Alors, je me suis amusé sur le tableau des 100% de souligner quelques matières pour vous dire que les matières soulignées, l'antimoine, les terres moines, les terres rares, le germanium et le vanadium, ils ont une particularité, c'est que c'est 100% et c'est un seul acteur, la Chine comme exportateur. Donc c'est 100% et uniquement la Chine. Donc on est maintenant, on est maintenant dans le sujet, un des sujets, le sujet à la mode, mais d'abord l'énergie, c'est un facteur 100, ensuite les autres matières premières, c'est plutôt un facteur 10, les terres rares, c'est des petites choses, un facteur 1, enfin c'est des tout petits marchés. Mais les Chinois sont en bonne position de monopole mondial sur ces terres rares qui sont des terres, des trucs indispensables pour un certain nombre de technologies. Enfin, je veux dire, ils sont en train de... Et en ce moment, les Chinois ont constaté, parce que pour personne n'en fait des terres rares, parce que ça pollue. C'est pas des questions de disponibilité, elles sont pas si rares que ça sur la planète, mais elles sont... la métallurgie est difficile, c'est là où on revient du raffinage au début. Il faut voir toute la chaîne, la métallurgie est difficile, et donc personne ne peut en faire. Et les Chinois qui avaient d'excellents gisements, se sont mis à en faire et maintenant ils estiment que ils vont réduire de 20 ou 30% pour des questions parce qu'il y a des tas de petites mines et des tas de petites installations dégueulasses et ils vont les arrêter pour l'environnement et on ne peut pas trop leur reprocher et puis finalement ils vont garder tout ça pour le marché intérieur ce qui est plus contestable et reprochable mais ça va être difficile à éviter et donc ces questions vont arriver au niveau du commerce international et arrive déjà d'ailleurs avec des différends à l'OMC sur un certain nombre d'exportations de matières. Donc on est maintenant peut-être à l'orée d'autres choses. Alors je vous rappelle aussi pour mémoire, puisque tu en es dans l'histoire, que l'Europe a été conçue très très fortement sur des questions d'approvisionnement, puisque le traité de Rome, chacun le connaît, il date de 1926, mais il avait été précédé par la CECA, par l'Euratom. La CECA, c'était quand même le partage des accords sur les approvisionnements en charbon avec l'Allemagne après-guerre. Et l'Euratom c'était des questions sur le nucléaire, avec le développement pacifique du nucléaire. L'Euratom prévoyait, par exemple, dans ses instances, une agence unique d'approvisionnement de l'Europe en uranium. Ça ne s'est jamais fait, mais enfin bon, voilà l'état d'esprit, il était là à l'époque. Traité de Rome, donc on est parti dans l'Europe de la concurrence, du grand marché intérieur. Tout ça a été un petit peu oublié, mais on voit maintenant des réflexions se faire. Donc la France, on n'est pas encore à ce niveau de réflexion, mais je lis dans les journaux que l'Allemagne est un exemple pour la France dans un certain nombre de domaines fiscaux, etc. Et en tout cas, dans le domaine des matières premières, je vois que le ministère allemand vient de faire un gros bouquin de politique sur l'approvisionnement des matières premières et sur quoi ça repose. On ne parle plus trop de stock. Hein. Si je regarde les éléments constitutifs de la politique allemande, puisque c'est ça que je peux commenter, faute de politique française exprimée sur le sujet, un, qu'est-ce qu'ils disent les Allemands ? Un, donner des garanties d'investissement pour les opérateurs miniers qui vont s'installer à l'étranger. Deuxièmement, créer une agence de matières premières, Rohstoffagentur, qui est une agence d'intelligence pour faire partager l'intelligence, savoir où sont les matières stratégiques. C'est un métier très très compliqué. Très compliqué parce qu'il ne suffit pas de savoir où sont les minerais, il faut connaître les industriels, connaître la métallurgie, ça c'est toute la chaîne de production, et puis savoir au niveau de la demande ce qu'ils font. Les industriels, bien souvent, ils savent plus très bien ce qu'il y a dans les matières premières, dans les matières qu'ils connaissent pas leur vulnérabilité, puisque tout ça est sous-traité dans la mondialisation et dans des échanges très complexes. Ensuite, l'efficience, c'est être économe en matières premières, c'est de recycler, bon, quatrième thème. Ensuite, la recherche et le développement. Ensuite, les accords bilatéraux, et donc de mettre la diplomatie là-dedans, le commerce extérieur, aussi diplomatie. Et puis enfin, dans les cadres du commerce extérieur, donc essayer de travailler la question à l'OMC, à l'Union européenne, au G8, au G20. Donc c'est des trucs qui vont revenir, mais dans des contextes très très compliqués. Et comme vous voyez, une approche matière première, il faut qu'elle suive absolument toute la chaîne. Et donc, on ne peut plus se contenter de faire des stocks à l'ancienne. Donc voilà ma conclusion. On a eu au début, des sensibilités où il y a eu des moments très fondateurs de la politique de sécurité d'approvisionnement en France et ailleurs. Les actions nécessitent des actions de long terme et à tous les niveaux des chaînes de consommation, mais aussi de production. Maintenant, on est dans un monde de la mondialisation. Vous avez vu, 45% des grandes matières premières sont consommées en Chine. Marché intérieur, réexportation. La technologie impose un certain nombre de matières incontournables. Et maintenant, le sujet redevient la mode dans la politique publique, disons. Qu'est-ce qui va en sortir? Je ne sais pas très bien, on verra. Est-ce que, d'ailleurs, les quatre frères dont je vous ai parlé seront agressifs? Est-ce que la Chine se mettra à s'intégrer et au lieu de nous vendre des terres rares, se mettra à vendre des aimants, puis ensuite des moteurs uniquement, puis ensuite des éoliennes, et puis on ne saura plus comment se sortir de là? Il n'y a pas de raison de le penser, mais enfin, la vigilance, disons, est redevenue sur le haut de la pile, et donc c'est pour ça aussi que ces questions sont traitées dans le cadre du G20 aujourd'hui, dont on parlait tout à l'heure, mais plus sous l'angle de la spéculation financière, pour l'instant, que sur l'angle général des préoccupations d'approvisionnement, qui me semble mieux traitées par les Allemands aujourd'hui. Et vous allez sur les sites allemands du ministère de l'économie et vous avez une politique très explicite qui est présentée.
Merci, Gilles Brevet. Exposé. Donc, je retiens qu'il y a un choc de la demande, qu'il y a un cartel du minerai de fer qui s'est constitué, qu'il y a un choc technologique, les nouvelles technologies demandent des matières premières assez originales, exotiques, et enfin le nécessaire retour de l'intervention publique, pour une régulation. Assurer la sécurité des approvisionnements en Europe. Voilà, je passe tout de suite la parole à Hadj Saadi, qui va nous parler aussi de ces questions d'un point de vue plus d'actualité.
Moi, je vais d'abord vous parler du fonctionnement des marchés de matières premières. Qu'est-ce qu'une matière première? Comment fonctionne un marché de matières premières? Pourquoi les prix montent et chutent? Et dans un deuxième point, je vais vous parler du poids croissant des pays émergents et notamment de la Chine, de sa stratégie à s'approvisionner en matières premières. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une matière première? Quelles sont les matières premières qui sont utilisées dans l'économie? Eh bien, il y a les matières premières agricoles et les matières premières minières. Dans les matières premières agricoles, il y a les matières premières agricoles alimentaires, comme le café et le cacao. Il faut dire que le café est le deuxième produit commercialisé dans le monde, derrière le pétrole. Il y a le cacao et il y a aussi les produits agricoles non alimentaires comme le coton, le caoutchouc qui rentrent dans la production de tous les jours. Les matières premières minières sont les matières premières minières solides comme le cuivre, l'aluminium et les matières premières fluides comme le pétrole qui occupe la première place sur le marché de matières premières, et on a aussi le gaz. Alors, pour comprendre comment fonctionne un marché de matières premières, souvent on est attiré par la volatilité des prix sur le marché boursier, et souvent on ne comprend pas très bien comment s'envolent les prix tout d'un coup et comment ils baissent comme ça le lendemain. Eh bien, les marchés boursiers sont un peu trompeurs dans la mesure où les prix évoluent à court terme. Mais pour bien comprendre comment fonctionne un marché de matières premières, il faut plutôt s'intéresser à au niveau moyen-long terme, dans la mesure où il y a une sorte de décalage entre l'évolution des prix et l'évolution de la production et de la consommation. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque le prix est suffisamment élevé, eh bien il va encourager les producteurs de matières premières à augmenter leur capacité de production, tant au niveau agricole qu'au niveau minier. Mais pour que la production arrive sur le marché international, eh bien un certain délai, souvent de 3, 4 ans et même plus. Pour les matières premières agricoles, eh bien il y a les matières agricoles pérennes, c'est-à-dire qui demandent plusieurs années pour être productives. Nous avons le café, nous avons le cacao, nous avons le coton, le caoutchouc, même le coton, c'est 3-4 ans. Eh bien, le temps que, entre le moment de décider de produire et le moment où la production arrive sur le marché, il y a un décalage entre le prix qui était élevé et 3 ou 4 années plus tard, le prix qui aura tendance à baisser dans la mesure où, au fur et à mesure que le prix augmente, eh bien, il y a une réaction de la consommation. C'est-à-dire que les consommateurs vont ralentir la consommation parce que les prix sont trop élevés. Les consommateurs vont chercher à consommer d'autres produits substituts qui coûteraient moins cher, d'une part, et d'autre part, ils vont chercher, pour les producteurs qui utilisent cette matière première dans les produits finis, eh bien, ils vont chercher à modifier la technologie de production. Par exemple, pour l'étain, qui a souvent un prix très volatile, un peu comme le pétrole, eh bien, on est arrivé au niveau technologique à améliorer la technologie de production et à utiliser une partie de plus en plus faible d'étain dans les produits finis, par exemple dans les produits électroniques. Il y a des produits de plus en plus miniaturisés. On prend par exemple le téléphone portable qui était le plus gros il y a une dizaine d'années, maintenant il est de plus en plus fin. Il y a les boîtes de conserve. Au lieu on utilise l'étain blanc qui coûte moins cher, etc. Et donc il y a ce phénomène de décalage. Et lorsqu'on superpose par exemple l'évolution des prix sur plusieurs dizaines d'années, et l'évolution de la production et de la consommation, on voit qu'il y a des successions de phases de hausse et de baisse des prix et de la production et de la consommation. Et on voit même qu'il y a une certaine convergence, c'est-à-dire qu'il y a un certain parallélisme avec ces décalages et ces mécanismes sont des mécanismes qu'on appelle des mécanismes endogènes. C'est ce qui explique, si on veut comprendre comment évoluent les prix des matières premières, eh bien, il faut s'intéresser dans une perspective de moyen-long terme. Et les prix sur les marchés boursiers, c'est une sorte de miroir. Et ce miroir explique que si les prix sont très élevés sur les marchés boursiers, eh bien, ça veut dire qu'il y a une situation de pénurie sur le marché physique, et si les prix sont bas, bien ça veut dire que le marché est en situation de surproduction, en excédent. Alors, cette volatilité des prix, eh bien, n'arrange pas, bien sûr, les pays producteurs, puisque les pays producteurs sont très largement dépendants de ces matières premières. Ils ont énormément de difficultés à diversifier leurs économies. Parmi les pays producteurs, eh bien, il y a des pays leaders dans chaque produit. Par exemple, le pétrole, c'est une matière première très spéciale, parce que une matière première qui entre dans la production, qui est très cruciale pour l'économie. Les dernières grèves en France, où il y a eu la grève des raffineries, eh bien, s'il y avait un arrêt total des raffineries et que si la France ne pouvait pas s'approvisionner à l'extérieur, on pouvait très bien imaginer tout le monde à pied, sauf les services de sécurité, l'armée, etc. Et donc, on ne peut pas imaginer une économie sans pétrole. Et en même temps, les prix des matières premières, surtout le pétrole, a un effet contagieux. Il rentre dans la production de très, très, très nombreux de produits. En premier lieu, par exemple, le transport aérien, terrestre, et dans la production de nombreux produits finis. Et donc, lorsque le pétrole augmente, eh bien, on va s'apercevoir que de très nombreux produits vont augmenter puisqu'il va entrer, et ce pétrole-là compte dans les coûts de production de très très nombreux produits. Ensuite, cette dépendance des pays producteurs de matières premières, eux-mêmes comptent beaucoup sur les recettes d'exportation pour investir. En général, ils investissent dans les infrastructures. Ça leur sert pour financer les dépenses d'éducation et de santé. Et si on prend, par exemple, de nombreux pays africains, on prend la Côte d'Ivoire, qui est premier producteur de cacao et de café robusta, eh bien, il y en a d'autres pays qui sont producteurs de pétrole, par exemple l'Angola, le Nigeria, l'Algérie, le Gabon, qui n'arrivent pas à envisager une dynamique économique en dehors du pétrole. Leur volonté politique est très claire, ils veulent très bien diversifier parce qu'il y a ce problème-là d'épuisabilité des ressources qui se pose tout le temps, et surtout pour le pétrole et les produits miniers. Mais même si la question de l'épuisabilité revient tout le temps, et quand on se dit que, par exemple, pour le pétrole, on évalue généralement à 40 ans, et d'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'on dit que c'est 40 ans, je crois qu'on ne connaîtra jamais le niveau réel des réserves qui restent à épuiser, surtout que ces dernières années, on essaie d'exploiter les schistes bitumineux en eau profonde, au niveau du Canada ou au niveau du Brésil, et que le prix élevé du pétrole actuellement justifie ou permet d'exploiter ce pétrole en schiste bitumeux, puisqu'il faut au minimum à peu près $70 pour continuer à investir dans ce domaine. Alors, justement, pour bien comprendre le fonctionnement des marchés de matières premières, bien sûr, M. Bellec l'a rappelé, c'est que les pays consommateurs sont aussi très dépendants de ces matières premières, et dans la mesure où ils sont très dépendants de ces matières premières, eh bien, leur technologie de production évolue très peu, et chaque année, ce problème se pose, et lorsqu'on essaye de s'intéresser aux matières premières, c'est souvent lorsqu'il y a une flambée des prix. D'ailleurs, la flambée des prix s'est passée pour la première fois durant les années 70, c'est-à-dire juste après les indépendances de la plupart des pays qui étaient colonisés, et qui, c'était à l'occasion de la nationalisation des compagnies pétrolières, qui étaient contrôlées par ce qu'on appelait les sept sœurs. Et donc, depuis les années 70, il y a un mouvement récurrent d'intérêt sur les matières premières. Et effectivement, si on s'intéresse réellement au fonctionnement des marchés de matières premières, eh bien, on pourrait éventuellement, même si c'est extrêmement difficile, essayer de prévoir quelle sera la tendance d'évolution d'un marché du café ou du pétrole par rapport à l'évolution de la croissance économique d'un pays ou d'un ensemble de pays, puisque les marchés de matières premières sont étroitement liés au rythme de l'activité économique générale. C'est-à-dire, plus la croissance économique est élevée, plus la demande de matières premières est élevée. Alors, ça, ce sont les mécanismes endogènes du marché. Et ces mécanismes endogènes subissent des chocs exogènes, c'est-à-dire des facteurs exogènes qui aggravent la hausse ou la baisse des prix. Eh bien, ces chocs exogènes, c'est quoi? Eh bien, pour les matières premières agricoles en général, c'est le climat. Par exemple, le Brésil est le premier pays exportateur de café arabica. Et à chaque fois que la caféiculture brésilienne subit un gel ou des conditions climatiques difficiles, ça veut dire pour les opérateurs, pour les négociants, une baisse de la production au niveau mondial, une raréfaction de l'offre et une flambée des prix. Pour les produits miniers, il peut y avoir des accidents. Par exemple, si on prend le cuivre, eh bien le Chili est le premier pays exportateur, producteur exportateur de cuivre, à peu près 30% de la production mondiale. Eh bien, s'il y a un accident dans la principale mine à ciel ouvert du Chili, eh bien, ça veut dire qu'il peut y avoir une réfraction du cuivre au niveau mondial. Ça, ce sont des chocs exogènes. Pour le pétrole, eh bien, le pétrole subit depuis des dizaines d'années les tensions politiques au Moyen-Orient. On peut rappeler la tension qui existe avec l'Iran, qui pourrait éventuellement bloquer le détroit d'Ormuz, donc perturber l'approvisionnement en pétrole, à la fois du pétrole iranien, irakien, du Koweït, etc. Ensuite, il y a l'instabilité politique au Nigeria, hein, il y a toujours ces mouvements de guérilla qui sont dans le delta du Niger. Il y a le Venezuela qui est sous le, qui est plutôt hostile aux Américains et les Américains ne se laissent pas faire, etc. Ce sont donc des chocs exogènes qui influencent beaucoup les prix, qui aggravent une hausse lorsqu'elle existe, ou qui maintiennent des prix élevés. Ensuite, ces chocs exogènes donc, se produisent régulièrement, donc il faut en tenir compte. Et par rapport donc, à ces fonctionnements des marchés, si on pouvait, M. Bellet tout à l'heure a rappelé que l'Allemagne a créé une agence nationale de matières premières, eh bien, c'est justement pour voir dans quelle mesure ils pouvaient, disons, maîtriser ou prévoir dans quel sens vont évoluer les marchés de certaines matières stratégiques. C'est une bonne idée, mais il faut donc effectivement voir, parce que c'est très compliqué, il faut prendre beaucoup d'éléments en jeu. Eh bien, peut-être que la France aussi pourrait éventuellement réfléchir à une telle idée, dans la mesure où ça représente plusieurs dizaines de milliards d'euros à économiser ou à, éviter les retombées très négatives sur l'économie lorsqu'on se retrouve devant une envolée des prix qui n'était pas prévue avec des effets tout à fait négatifs sur l'ensemble des secteurs économiques. Alors ensuite, on peut passer à... vers la conclusion, ça veut dire, je voulais aborder rapidement le cas du commerce sud-sud qui se développe très rapidement et qui tourne autour de 13% depuis les années 2000, alors que l'évolution du commerce mondial tourne autour de 9%. Ensuite, le cas particulier de la Chine qui est très offensive sur les marchés de matières premières, surtout en Afrique, où elle s'approvisionne sa consommation de produits miniers, elle les tire en 20% de ces produits miniers sont tirés de l'Afrique et 20% de sa consommation pétrolière, dont 7% au niveau du Soudan. Donc ça dérange beaucoup, surtout l'Union européenne, dans la mesure où elle s'accapare de matières premières stratégiques qui est dommageable pour l'économie européenne. Et donc ça, le cas de la Chine est souvent discuté. Monsieur Bellec aussi a parlé des terres rares tout à l'heure, qui se trouvent aussi bien sûr partout, mais qu'il s'agit d'exploiter avec la technologie qui est très spéciale, notamment en termes d'environnement. Donc voilà globalement ce qu'il fallait savoir, mais très grossièrement sur le fonctionnement des matières premières et surtout le commerce sud-sud qui se développe avec des pays... en voie de développement qui a un taux de croissance bien supérieur à ceux des pays développés. Par exemple, pour l'Afrique, la moyenne africaine de taux de croissance économique depuis les années 2000 tourne autour de 6%. Voilà, merci.
Alors, merci beaucoup. Et juste une remarque, mais il me semblait que le consensus des experts du pétrole considéraient que le prix de $70-80 le baril était un prix d'équilibre à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas un prix particulièrement élevé.
D'autres parlent de 90 $. Donc, c'est assez
oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que vraiment le pétrole soit particulièrement cher par rapport aux données du marché.
Ah non, pas du tout.
Voilà, c'est ça. Merci.